À Boulevard 102, on est choyé. Je pense qu'on trouve le moyen de s'attacher avec les meilleures personnes pour nous faire voir leur spécialité dans l'univers de l'actualité. Elle en fait d'ailleurs partie. Elle est journaliste judiciaire du côté du Soleil. Elle s'appelle Judith Demel. Salut Judith, bienvenue en studio.
Allô,
ça
merci.
Ça va bien?
Oui, toi?
Tout juste de retour de vacances. On s'est ennuyé
oui,
de toi, puis il y a tellement eu de gros dossiers au courant des dernières semaines. Fait qu'on va essayer de faire une espèce de melting pot de tout ça. T'es allée te promener du côté de l'Europe?
Oui, j'ai fait ça, moi.
Du côté de la France?
En voyage, ça fait du bien. Mais là, vous allez peut-être dire que j'ai des problèmes, mais moi, quand je voyage dans un autre pays, j'aime ça aller voir les palais de justice.
Ah, mon Dieu, ça fit avec toi, je trouve.
Ça fit tellement avec toi. Le contraire m'aurait surpris.
Donc voilà, fait que c'est de ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui parce que c'était dans ma spécialité aussi.
Dans ton élément, ben oui.
Voilà.
Regarde-tu un peu ce qui se fait ailleurs justement quand il y a des gros procès pour savoir c'est quoi les distinctions, certaines habitudes ou encore des histoires qui dépassent les frontières?
Oui, quand même, un peu, mais pas trop non plus. Parce qu'on dirait que là mettons quand je suis en voyage, puis là j'ai décroché, là je suis prête à peut-être rentrer là-dedans, mais quand je travaille, peut-être que le soir, là, je décroche plus, mais les grosses affaires, c'est sûr que je vais regarder. Puis justement, quand on était en France, il y avait aussi Depardieu qui a été condamné, donc on a tout lu ça aussi. Donc oui, je m'y intéresse, mais il ne faut pas que j'en fasse trop non plus. Là, t'sais, à un moment donné, il faut...
Décroche!
Voilà.
Là, quand tu es allée visiter le palais de justice du côté de Lyon, est-ce qu'il y avait de l'activité à ce moment-là? C'était juste faire le tour. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Puis qu'est-ce que tu as remarqué?
Bien, d'abord, c'est que ces monuments-là, là-bas, sont magnifiques.
T'es-tu en train de dire que ça n'a rien à voir avec le palais de justice de Québec?
Rien du tout. T'sais, nous, on a un bâtiment moderne qui est plein de portes, d'étages, d'ascenseurs. Ah ouais. Là-bas, ils ont encore les vieux bâtiments d'autrefois. C'est des œuvres d'art à l'intérieur. T'as l'impression de visiter un musée. S'il y a des sculptures, il y a des tableaux. Les plafonds dans les... salle d'audience, il y a des fresques
qui sont là.
Qui est avec des grands luminaires. C'est magnifique. Fait que je me dis que ça serait vraiment le fun de travailler là-dedans tous les jours.
Malgré tout, est-ce qu'on a amené, mettons, la touche de modernité? Parce que mine de rien, il y a des enregistrements qui doivent se faire. T'sais, la sécurité ici, il a fallu qu'on l'augmente. Est-ce que c'est la même chose là-bas?
Bien, d'abord, là-bas, quand je suis entrée, il y avait de la sécurité à l'entrée. Puis là, je pensais que j'allais pouvoir passer tout bonnement comme ça. Puis là, la dame à la sécurité, je ne sais pas trop si c'est les constables ou la police. Là, moi, je vais l'appeler la constable parce que je suis habituée. Elle me demande « Vous venez faire quoi? » Je suis là, ben, je veux juste visiter le palais de justice. Là, elle me regarde comme si il n'y a pas d'autre chose de mieux à faire que sa journée en vacances.
Tu as-tu expliqué?
Ben, c'est ça. Là, je voyais qu'elle me disait « Revire de bord, tu sais, ça n'a pas rapport. »
Tu n'as pas d'affaire là, tu ne laisseras pas rentrer.
Fait que là, je dis « Non, mais moi, je travaille au palais de justice au Québec, donc je veux voir la différence. J'aime ça voir les autres palais dans le monde. » Fait que là, elle était là « OK. » ben écoute, viens-t'en, j'imagine, là. Fait que là, elle me fait rentrer. Au début, elle me laisse aller. Elle me dit que je peux pas prendre de photos puis que je peux pas rentrer dans la grande salle. Fait que là, ça va, là, on fait un peu le tour. Puis là, je m'assois sur un banc puis je regarde parce que je vous dis que c'est magnifique. Puis finalement, elle vient me voir. Puis elle me full jaser. Elle commence à m'expliquer que les tableaux au mur, ça représente tous les signes astrologiques. J'ai pas développé là-dessus. Puis je lui demande, est-ce que je peux aller dans le procès qui est ouvert? Puis là, elle me dit, ben non, c'est un procès avec un mineur. Là, je fais, comment ça, ben non? Elle dit, ben tout est à huis clos.
Mais là, huis clos, ça veut dire...
Huis clos, ça veut dire qu'il y a personne qui rentre. Même pas la famille des gens. Là. Il y a juste le juge, les avocats, victimes, accusées, c'est tout.
Puis des témoins, j'imagine, qui ont besoin de se présenter.
Exact. Là, je dis, c'est vraiment étrange. Je pensais que la justice était accessible. Elle dit, ben non, il y a un mineur. Tu peux jamais rentrer dans ce temps-là.
Mais c'est quoi l'inquiétude? C'est par rapport à ce qui va se dire dans la salle? Est-ce que c'est par rapport à l'identité?
C'est ça. Fait que là, je lui ai dit, OK, c'est un mineur qui est accusé. Parce que nous, en Chambre de la jeunesse, il y a des ordonnances sur tout. On n'est pas à huis clos, on peut tout voir. Mais on ne peut pas dire les identités. Fait que là, je pensais que c'était un peu similaire à ça, mais qu'eux autres étaient allés encore plus loin en huis clos. Fait que là, je lui dis, c'est un mineur qui est accusé. Elle dit, non, c'est un adulte qui est accusé, mais le mineur, c'est la victime.
Hein?
Fait que si tu commets ton crime sur une victime...
Protégé automatiquement.
Ton procès va être à huis clos.
Ah,
parce que c'est pour protéger la victime qui, elle, doit témoigner puis vivre le processus.
Alors que, tu sais, on a une espèce de perception dans notre système judiciaire que les échos que tu vas avoir du procès vont faire partie un peu de la sentence. Ben, que, oui. Mettons, l'accusé reconnu
puis
coupable,
tu vas avoir les détails,
c'est le poids qu'il va avoir, ouais.
Et tu vas comprendre le crime, pourquoi, le contexte et tout ça, comme tu dis.
Puis que tu espères puis... aussi que quelqu'un qui pourrait penser commettre un crime du même genre voit ça comme étant dissuasif.
Parce que ça protège un peu l'accusé dans ce temps-là, parce que lui, on peut dire qu'il est accusé et tout, mais on ne pourra pas voir son procès de A à Z. Puis là, j'ai été surprise quand elle m'a dit ça. Puis elle ne comprenait pas pourquoi j'étais surprise. Puis là, je lui ai expliqué, ah, mais au Québec, ce n'est pas comme ça. Il y a des ordonnances qui protègent les victimes mineures à tout coup. Mais on peut assister, puis on peut tout rapporter. Puis là, elle m'a regardée, elle avait l'air de dire, mon Dieu, vous traitez donc bien mal vos victimes.
Hey, je suis tellement pas c'était en désaccord, par exemple.
Mais ah, le jugement, là. Puis là, je me sentais, j'avais le goût de justifier un processus et un code que je n'ai pas inventé.
Tu sais, ça me fait penser à certaines histoires que tu nous as déjà relatées.
Oui.
Tu sais, quand c'est une victime qui est mineure, qui est au palais de justice, elle va se faire contre-interroger. Puis des fois, on essaie quasiment de lui faire porter une partie du blâme. Mm-hmm. Puis c'est quand même quelque chose, même si l'identité est protégée, que cette personne-là a apporté dans son bagage par la suite. Fait que je peux comprendre la lecture qu'il y a par rapport à ça.
Oui, puis elle disait que c'est juste pour que quand les mineurs témoignent, ils sont pas influencés puis ils sont pas intimidés par rien dans la salle. C'est pour rendre le processus le mieux pour eux.
Ce qui est pas fou, là.
C'est pas fou du tout. Mais là, il y a plein de questions éthiques qui embarquent. Puis je suis curieuse de savoir, ça m'a fait réfléchir, c'est-tu nous peut-être qui devraient mieux protéger nos victimes ou peut-être qu'eux, ils en font trop parce que là, il y a plein de questions sur la liberté de presse, mm-hmm. puis le manque d'informations qui n'est pas donnée au public. Donc, il y a un juste milieu là-dedans, mais c'est étonnant de voir qu'eux font ça comme ça, puis que c'est comme ça depuis toujours, puis les différences avec nous, puis le jugement, justement, qu'elle portait à notre fonctionnement dans ce contexte-là. Donc... Mais on a fini, on était amis, là. On s'est pas chicanés.
Non! Elle dit, je viendrai jamais au Québec. Vous savez pas comment vous traitez vos mineurs, mais je trouve ça franchement intéressant, cette manière-là de faire qui est terriblement différente de la nôtre.
C'est fou parce que je trouve que la question est bonne à soulever dans le sens où, pour la protection du jeune, on dirait que mon premier réflexe, c'est de dire, hey, c'est 100% valable. J'ai envie qu'on vire vers ça.
Mais là, après, puis on prend notamment le meurtre de Daphné Jolivet.
Ce qui nous amène dans notre actualité à nous.
Les grandes manchettes, si on avait fonctionné comme on fonctionne à Lyon, on n'aurait jamais su les détails de ce crime-là parce que tous ces procédures-là se seraient tous passées à huis clos.
Puis ces détails-là sont quand même importants.
Oui, pour comprendre la gravité de ce crime-là, qui a été un des pires jamais commis dans les dernières années à Québec.
Peut-être rappeler les éléments parce qu'il y a eu une conclusion partielle, si on veut, au courant des derniers jours.
Le meurtrier de Daphné Jolivet, c'est une jeune femme de 19 ans qui a été tuée chez elle
par un mineur.
Dans Limoilou, par un mineur. Donc, ce qui nous amène pourquoi on ne peut pas le nommer, mais on peut quand même parler des procédures. Donc, ce jeune mineur-là, qui a maintenant 18 ans, a plaidé coupable à l'infraction. Donc, il est coupable de son meurtre, de son agression sexuelle et de divers autres délits là, qu'il a fait dans la même soirée.
Puis lui, en fait, était entré chez la victime.
Ouais.
Pendant que ses parents dormaient.
Pendant que tout le monde dormait, il est descendu, a attrapé un couteau de cuisine, est descendu au sol et a commis un des pires crimes.
Sans aller dans les détails scabreux, c'est tous des détails qui ont été présentés au moment où lui, dans le fond, il a choisi de plaider coupable.
Oui, on a su la trame factuelle, on a su pourquoi il avait agi comme ça. Dans ce contexte-là, il a agi gratuitement, donc c'est d'autant plus effrayant, là. Mais on comprend aussi pourquoi on demande une peine pour adulte à ce jeune-là. Parce que si on n'explique pas ce qu'il a fait, on se demande pourquoi lui va être jugé aux adultes, qu'est-ce qu'il a fait de pire qu'un autre. Mais étant donné la gravité du crime, l'horreur... Tu sais, quand on utilise ces mots-là, puis on n'entre pas dans les détails du meurtre qui est arrivé parce que c'est vraiment épouvantable ce qui est arrivé.
Ouais.
C'est sordide, c'est par respect pour la famille, par respect pour Daphné Jolivet. Mais quand on utilise ces mots-là, c'est parce qu'on n'en a plus dans le dictionnaire pour vous dire à quel point c'est pas beau.
Puis on sait pas, ce jeune-là, là, c'est qui par rapport à cette victime-là? On peut pas le savoir à cause de l'ordonnance de non-publication, dans le fond?
Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait pas de lien. Là.
OK.
Il est rentré là, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est sorti.
Fait que là, la prochaine
ce
étape...
Qui ajoute à
l'horreur,
Parce que tu mets dans tête que...
Que c'est difficile à comprendre.
Si, mettons, la porte avait été barrée, là, il serait allé à côté. dans l'autre rue. Finalement, il choisissait ça au hasard. Est-ce qu'il l'avait vu à un moment donné, il l'a suivi? Il a voulu faire le crime parce qu'il... On le sait pas, il a pas voulu le dire. Nous, ce qu'on sait présentement, ce qu'il a plaidé coupable, c'est ces faits-là. Ça a été un crime aléatoire, il est rentré là. Puis après, comme tu dis, la suite, c'est déterminer la peine puis déterminer s'il va être jugé aux adultes. Puis là, il va avoir des analyses par des experts sur ce jeune-là. Puis là, on va peut-être en apprendre davantage qu'est-ce qui a poussé ce jeune-là à agir ainsi, à commettre un des pires gestes que j'ai entendus là, de ma courte carrière.
Pendant les dernières semaines aussi, on a finalement eu une peine qui était quand même assez attendue pour tout ce qui touchait Expédition Milou.
Oui.
Alors que la cruauté envers les animaux, on en entend parler. Par mm-hmm. contre, dans ce procès-là où le gars qui a été reconnu coupable, il a tué des animaux, c'était quoi, par centaines?
Centaines de chiens,
oui. On n'avait jamais eu quelque chose de cette ampleur-là, puis on s'est dit, bien, assurément que la peine qui va être donnée va faire jurisprudence, puis mm-hmm. c'est effectivement considéré comme étant une peine exemplaire.
Bien, c'est la peine la plus élevée jamais donnée au Québec en termes de cruauté animale. Puis, il y a eu 23 mois, un petit peu moins de 2 ans, en prison. La poursuite demandait 5 ans, qui est la peine maximale. Puis, on s'attendait peut-être à ce qu'on allait s'approcher de ça, étant donné que, bon, tuer des centaines de chiens, c'est du jamais vu.
Ah, puis c'est la façon dont tu l'as fait aussi. Là.
Oui.
Il y a comme une conscience derrière ça, là, congeler
oui.
les chiens. Les,
t'adores
les
ce
les
sujet-là, Audrey.
Ah, mon Dieu,
c'est
mais
tellement
ça,
ça qu'on en parle.
Puis, je veux juste mettre une nuance. Mm-hmm. J'aime les chiens, là, je ne suis pas une folle aux chiens non plus. Moi, c'est la vulnérabilité, en fait, de ces mm-hmm. petits êtres mm-hmm. vivants-là.
Non, et, ils ont été dans mis dans le congélateur.
Non, mais c'est plus que gratuit. Il n'y a aucune défense, là, tu sais.
Puis le juge Barcouture l'a bien dit dans sa sentence, puis il l'a dit tout le long des procédures là-dedans, il dit c'est pas les militants, c'est pas la société, c'est pas la pression sociale qui va décider de la peine. Malheureusement, on donne des peines dans un contexte de droit avec des règles à suivre, de la jurisprudence à analyser, puis un contexte du délinquant, comme je vous ai déjà dit. Donc lui, il a dit, je peux pas me rapprocher du 5 ans, parce que Antoine Simard, le coupable là-dedans, le propriétaire d'Expédition Milou, il n'a pas agi par sadisme. Ça ne lui procurait pas du plaisir de tuer ces chiens-là.
Ça, je pense que c'est la sortie qui nous a surpris le plus, mais qu'il n'avait pas le choix de faire.
Il a agi par découragement, parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il était au bout du rouleau. Il cherchait des solutions, il n'en trouvait pas. Puis c'est ce qu'il a trouvé le plus facile à faire pour prendre le contrôle de son entreprise puis des naissances. Donc, cet aspect-là fait en sorte que ce n'est pas... Il n'y a pas de déviance, il n'y a pas...
Mais tu as un problème au deuxième étage.
C'est pas un, oui, c'est pas un gars... Si on ne le place pas dans un contexte similaire, j'imagine que le juge l'a moins vu comme étant un gars qui était à risque de récidive,
puis,
par exemple.
Puis il l'a quand même écorché. Là. Il lui a dit que ce qu'il a fait, c'est impensable, c'est inimaginable, puis c'est hautement...
Sadique.
Grave, là. Mais le contexte fait en sorte qu'on peut miser aussi sur la réhabilitation de cet homme-là. Puis c'est pour ça qu'on lui a refusé la prison à la maison. Là, un instant, là, c'était trop grave pour aller à la maison. Assez pour aller en prison, mais pas assez pour t'envoyer au pénitencier. Là.
C'est quand même deux dossiers qui avaient été très médiatisés dans les dernières années à Québec. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres dossiers soient bouclés?
On a la décision sur Dominique Laroche, le skieur, qui est accusé d'agression sexuelle. Ça va venir au mois de juin, si tout va bien. Puis, on a le rôle des assises. Ça, c'est tous les plus gros les crimes qui sont traités en cour supérieure. Là, les meurtres sont tous là-dedans. Puis, ça s'ouvre le terme le 2 juin. Donc, à ce moment-là, on planifie des procès, puis on planifie des procédures. Donc, je vais plus pouvoir vous en dire après le 2 juin, parce que des fois, les horaires, il y en a qui... Des fois, les procès sont placés à l'horaire, il y a des changements, des fois les juges tombent malades, tu sais, il y a plein de contextes
de variables,
qui fait que ça se bouscule. Donc on va faire le ménage là-dedans, comme on dit, en juin, puis ensuite là, oui, il devrait avoir des procès là, d'ici la fin de l'année.
Il y a eu plusieurs ententes qui ont été faites, plusieurs personnes qui ont plaidé coupables, entre autres dans l'entourage de Dave Picturmel. On en est rendu où dans ses procédures à lui?
On l'attend. Pour l'instant, son rapatriement n'est pas complété. On peut pas nous dire ça va prendre combien de temps, puis si c'est rapide ou non. Il y a tellement de paperasse. Là,
fait qu'il est encore, il est encore l'autre bord.
Techniquement, il sera encore l'autre bord. Mais il est en prison, là. Il est détenu.
Ah ouais.
On sait il est où. Tout
il
n'est
pas dans une
ville. Mais pour le ramener, c'est pas juste d'appeler Air Transat puis de demander un billet pour venir au Québec. Là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup
c'est
de...
C'est toutes les procédures, dans le fond.
Oui, puis il faut que eux...
Comment ça marche,
si on
allait
le chercher... Comme si c'est moi qui allais. Il faut que la police se déplacent là-bas. Fait que là, il faut tout organiser le transport. Là.
Sais-tu comment ça revient?
C'est pas en classe économique. Là.
Mais c'est ça, sais-tu, c'est quoi? C'est un jet?
C'est quoi? C'est une excellente idée de reportage. Parce que je l'ignore.
De pas revenir à côté de Gaston qui revient de son voyage.
Mais non, c'est
moi,
ça.
Moi, quand je revenais de France, on regardait un petit peu dans l'avion. On était, peut-être qu'il va être là. Tiens, est-ce qu'il va être dans mon vol, peut-être? Mais non, on a vérifié puis on n'a pas vu.
Ah non, mais si, sécurité. Si éventuellement t'as les échos de tout ça, tiens-nous au courant parce mais que je pense que.
Puis je pense que la police est tannée qu'on leur demande quand est-ce qu'il s'en vient. Je pense qu'eux ont aussi hâte de le rapatrier puis pour lancer le processus judiciaire.
Mais c'est un bon texte, là, Judith. Là. Lance-toi là-dedans puis reviens voir.
Sujet.
Judith Demel est journaliste judiciaire du côté du Soleil. On vous invite à aller la lire. Elle nous raconte toujours très, très bien l'envers du décor. Judith, on a hâte de te reparler, puis on va surveiller là, ce qui s'en vient dans le rôle des assises pour savoir ce sera quoi nos prochains gros dossiers.
À bientôt!
À bientôt! Nous, de notre côté, Shine Down avec leur plus récente 365. Vous écoutez Gravel dans le retour sur les ondes de Boulevard 102. Le vieux Shine Down.